C'est bon ? Alors R22, tout le monde, antenne Arsport 2024. Et après ?
Madame Karine Roland, monsieur Pierre Rabadan, bonjour.
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 Pourriez-vous vous présenter en quelques mots, madame Roland ?
Alors bonjour à toutes et à tous, je suis Karine Roland, je suis adjointe à la maire de Paris, Anne Hidalgo, en charge de la culture et de la ville du quart d'heure.
Monsieur Rabadan ?
Donc je suis Pierre Rabadan, également adjoint à Anne Hidalgo, la maire de Paris, en charge moi du sport et des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
Madame Roland, est-ce que vous pourriez nous exposer brièvement les politiques publiques que vous mettez en œuvre à Paris ?
Alors, c'est extrêmement vaste. Je ne vais pas vous détailler les politiques publiques culturelles qu'on met en œuvre à Paris in extenso, mais vous dire que le mandat qui s'ouvre encore, puisque il a démarré il y a un an avec une année un peu chaotique et particulière, nous le plaçons avec la maire de Paris en matière culturelle sous l'angle de la rencontre. C'est-à-dire que à Paris, nous avons cette chance d'avoir un grand nombre d'équipements culturels, de dispositifs, une immensité d'artistes aussi. Donc tous les éléments sont là pour que la vie culturelle foisonne. Elle est déjà très intense, très vivante. Notre objectif, c'est de faire en sorte, bien sûr, qu'elle soit encore plus partagée. Et aussi, je dirais que la culture dialogue avec d'autres champs de l'action publique, dont le sport, et j'allais dire presque évidemment avec le sport.
Et comment la mise en lien entre les milieux de l'art et du sport vient faciliter cette rencontre et ce développement dont vous parlez ?
La rencontre entre art et sport, sur laquelle on travaille beaucoup, Pierre et moi, ensemble, fait que on va à la rencontre des publics les uns des autres. Donc, quand je disais tout à l'heure que nous souhaitions densifier encore et rendre encore plus vivante la vie culturelle pour tous, c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que un certain nombre de Parisiennes, de Parisiens ont l'habitude d'aller qui au théâtre, au cinéma, au musée et assister à diverses performances, d'autres moins. On sait que en croisant nos pratiques avec le sport, on va pouvoir aller, nous, à la rencontre de publics plus habitués au sport qu'à la culture. Et l'inverse est vrai aussi. On a déjà commencé, on pourra le détailler tout à l'heure. Mais ça, c'est un aspect important. Il y a tous les lieux que nous pouvons partager et il y a l'espace public. C'est un axe important aussi que de faire en sorte que la culture soit au plus près de la vie des Parisiennes et des Parisiens. L'espace public peut être fait pour ça. Je passe beaucoup de temps en ce moment dans le musée Carnavalet qui va réouvrir après des années de travaux et je suis frappée de voir à travers l'histoire comme l'espace public parisien était investi par des foules. Alors les foules, aujourd'hui on ne peut plus en parler, et puis les contraintes de sécurité font depuis quelques années que c'est un peu plus compliqué, mais quand même la vie parisienne, la vie ensemble, elle, au fil des ans, elle s'est beaucoup déployée dehors. Revenir à ça en croisant art et sport, il me semble que c'est quelque chose de très enthousiasmant et qui peut vraiment parler aux Parisiennes et aux Parisiens.
Monsieur Rabadan, est-ce que vous pouvez nous parler brièvement des politiques publiques que vous mettez en œuvre à Paris ?
Alors, je vais essayer en étant le plus synthétique possible, parce que comme pour la culture, il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, vous retirez des éléments de contexte. On est dans une ville, Karine Roland l'a dit, qui est extrêmement dense, où on a un taux d'équipement sportif par habitant qui est relativement faible, en tout cas qui n'est pas satisfaisant et qui ne répond pas à la demande. Mais on n'a pas encore trouvé les solutions pour écarter le périphérique. On réfléchit à lui trouver une évolution, mais pas encore pas celle-là. Et on a un certain nombre d'équipements relativement limités et qui sont suroccupés déjà aujourd'hui. Donc à partir de là, comment on peut permettre aux gens de faire plus de sport ou d'en faire mieux, ou en trouvant des nouvelles solutions, des solutions innovantes. Donc moi, c'est vraiment ma feuille de route. C'est d'abord d'utiliser au maximum les équipements sportifs existants, les rentabiliser, si je peux dire, encore mieux en termes d'utilisation, pour ce qu'il est possible de faire, réhabiliter Et ça a été le cas depuis déjà 2001, notamment les équipements sportifs un peu vieillissants que nous avons, parce que Paris est une ville ancienne avec certaines contraintes patrimoniales, ce qui est formidable, mais ce qui nous engage à maintenir un niveau d'investissement sur nos équipements importants. Et puis, Karine Roland le disait, investir l'espace public. Voilà, je crois que notre marge de progression, elle est vraiment à ce niveau-là. On l'a vu pendant le confinement et c'est aussi quelque chose qui rapproche la culture et le sport. Ce sont deux pratiques, en tout cas deux domaines qui ont été, pris à la gorge. Voilà. On s'est rendu compte aussi que c'était un réel besoin chez les gens. Côté sport, on sait très bien qu'on a une population qui, avec l'évolution des méthodes de travail, se bouge moins, se déplace moins, à une sédentarité qui est de plus en plus inquiétante, et ça a été encore accentué par les différents confinements. Et donc aujourd'hui, on a vu aussi des nouvelles pratiques se développer, avec des équipements fermés, les gens sont sortis faire du sport, ont réinvesti l'espace public ou de manière différente. Et nous, la ville de Paris, nous devons nous adapter à ça, en plus de notre offre traditionnelle qu'on continue à alimenter, à pousser et à aider à se structurer autour des clubs qui sont pour nous un lieu de vie sociale essentiel et continue à inciter les gens à avoir une pratique encadrée. On veut aussi accompagner le développement d'une pratique libre, d'une pratique dans l'espace public, d'une appropriation de cet espace public pour faire émerger la pratique de l'activité physique aussi qui est très importante pour une question sanitaire, de santé, de notre population. Et je pense que la culture est aussi un moyen d'amener, comme le disait très bien Karine, des gens qui n'ont pas forcément une pratique sportive régulière, mais peut-être une sensibilité à la culture plus grande, à de la pratique sportive. Et des sportifs ou des sportives qui sont dans un cadre peut-être un petit peu éloigné de certaines pratiques culturelles, à découvrir cet aspect culturel au travers de leur pratique sportive ou dans le cadre de cette pratique-là et de les orienter vers la découverte de ce milieu qui est formidable. Et ce sont vraiment deux domaines qui, pour moi, doivent s'auto-alimenter et permettre l'un et l'autre de s'enrichir.
Et par rapport à ce souci que vous avez de voir des pratiques se développer dans l'espace public, d'après vous, comment travailler ces liens entre art et sport, ça permet d'ouvrir ces nouveaux espaces? Comment ça peut faire levier?
Alors, on travaille pas mal sur la sortie. Bon, c'est un scoop pour personne. Qu'il y ait un peu moins de voitures d'automobiles dans l'espace public, de partir à la reconquête finalement de cet espace public qui a été beaucoup envahi par nos déplacements, par nos modes de déplacement. Et aujourd'hui, on voit que les voies sur berge à proximité sont un très bon exemple de ça. Il y en aura encore plus à l'avenir, mais c'est un lieu où on s'est approprié de la pratique de déplacement, du sport, de la culture. Parfois, on a eu l'occasion d'y mettre aussi différents types d'œuvres culturelles. Et on passe à proximité d'un patrimoine très riche à Paris aussi quand on pratique. Et je pense que tout le monde apprécie beaucoup ça. Je pense que aussi, on peut se servir, par exemple, de la puissance culturelle, de l'ouverture culturelle pour, dans nos équipements traditionnels sportifs, sensibiliser les gens à ça. Et comme disait Karine, aussi partager des équipements, je crois qu'on y réfléchit beaucoup. On a un exemple qu'on utilise souvent, mais parce qu'il est assez criant, le carreau du Temple qui a été rénové il y a quelques années maintenant et qui est le symbole pour moi d'un lieu qui accueille à la fois des lieux de pratique pure sportive et des lieux culturels avec une programmation très ambitieuse. Et on voit que ces deux domaines coexistent. Et voilà, je crois qu'aussi le sport a besoin, et c'est dans son ADN, de cette ouverture au monde, de cette capacité à vivre avec l'autre, à apprendre de l'autre, et c'est ce que nous enseigne beaucoup la culture. Et je trouve que voilà, ce sont deux moyens qui doivent permettre de s'auto-alimenter et l'émergence de cette coexistence entre l'art et le sport.
Et quelle place donnez-vous à la culture sportive dans vos politiques publiques ?
Alors, je ne sais pas ce que vous entendez précisément par la culture sportive, ce que ça peut être.
Vous évoquez par exemple les clubs, la vie des clubs, tout ce qui est lié au sport et qui n'est pas directement du résultat sportif, on pourrait dire.
Alors, ah oui, ok, c'est cet angle-là que vous entendez.
Ça rejoint un peu aussi les préoccupations que vous avez, Karine, sur la question des droits culturels. Plein de formes culturelles.
Je dois confesser que je trouve que nous avons une culture sportive qui est assez sous-développé en France, en tout cas pas assez développé à mon goût, et vraiment j'aimerais travailler à l'aide, il faut le dire clairement aussi, de l'accueil du plus grand événement mondial que sont les Jeux Olympiques et Paralympiques, et par l'ambition que l'on porte ensemble autour des Olympiades culturelles aussi, vraiment développer cette culture sportive pour en fait changer un peu d'approche de la pratique sportive. Aujourd'hui, beaucoup considèrent que le sport, c'est soit du spectacle, du haut niveau, ce qu'on voit à la télé, etc., ou du loisir. Et l'entre-deux est assez vide aujourd'hui dans la culture populaire. Et je pense que dans une société qui fonctionne mieux, l'activité physique et la culture sportive doit prendre une part plus grande. Donc je pourrais vous en parler très longtemps, mais je ne veux pas monopoliser la parole non plus. Mais je pense que ça passe par le développement des clubs aussi, de leur savoir-faire, leur capacité aussi à aller chercher des publics qui sont éloignés de la pratique sportive aujourd'hui. Donc on essaye d'accompagner la structuration des clubs et non pas leur professionnalisation, parce que ça restera des activités non professionnelles pour la plupart des associations, mais en revanche leur monter en compétences, être capable d'accompagner les dirigeants, les bénévoles sur ce qu'ils savent faire, ce qu'ils peuvent aller chercher, des femmes éloignées de la pratique, des jeunes qui aujourd'hui ne font pas de sport et qui font autre chose, mais qui peut-être leur amènent une expérience moins grande, et qui aussi peut-être sont éloignés selon leur situation géographique, leur histoire familiale, à la fois d'une pratique sportive, mais aussi d'un domaine culturel qui n'ont pas eu peut-être la chance de découvrir, et ça peut être un moyen.
Madame Roland, on évoque les Jeux Olympiques qui sont précédés d'une Olympiade culturelle. Comment vous l'envisagez aujourd'hui ?
Avec enthousiasme, avec énergie, et avec Pierre Rabadan, évidemment. Au-delà de, et avec Anne Hidalgo, beaucoup d'ailleurs.
Surtout.
Surtout. Au-delà de la pointe d'humour, il me semble que c'est vraiment un moment très important pour tout ce dont on vient de parler, parce que. Comme vous le disiez, ça va démarrer après les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo. Donc, aussitôt Tokyo terminé, on peut démarrer l'Olympiade culturelle qui aura une durée de 3 ans et non de 4, Covid aidant ou surtout n'aidant pas. Et c'est une période pendant laquelle, bien sûr, on peut célébrer les valeurs de l'olympisme et le faire en recourant, en s'appuyant à la fois sur les arts et sur les sports, le sport, en travaillant de nouveau cette rencontre. Donc, nous avons désormais la certitude qu'on démarrera à l'automne avec un grand moment dont on pourra vous dire. On pourra vous en dire un peu plus d'ici quelques jours ou quelques semaines. Pour l'instant, c'est encore un peu tôt. Mais ces années-là doivent être l'occasion de faire dialoguer sport et culture, de mettre de la culture partout dans la ville et pas seulement. Pierre parlait tout à l'heure du périphérique, de traverser le périphérique. Bien sûr, les Jeux Olympiques ne seront pas que parisiens, ne seront pas surtout pas intramuros, enfin pas uniquement intramuros, c'est l'occasion de vraiment de travailler à l'échelle d'un territoire qui dépasse les enceintes historiques de Paris, et l'Olympiade est vraiment réfléchie en ces termes-là, en s'appuyant sur des artistes qui sont là aussi très volontaires, hein, très enthousiastes à l'idée de faire se rencontrer des pratiques complètement artistiques. J'y reviens, mais on a cette chance à Paris et en Île-de-France d'avoir des artistes de tous horizons, de toutes générations, de toutes disciplines, qui se prêtent très bien au jeu de... on est dans le cadre de l'Olympiade. Qu'avez-vous à proposer, toujours en réfléchissant au lien avec une pratique sportive? Et ça peut être extrêmement vaste. Ça va de la marche au breakdance qui vient de faire son entrée dans les disciplines olympiques et en parcourant tout le reste, la danse, le cirque évidemment, mais aussi le jonglage et que sais-je encore. Donc vraiment, l'idée, c'est pendant ces années-là, d'émailler le territoire qui sera celui des Jeux olympiques et paralympiques et de faire appel à des disciplines très variées.
Et ce rapport entre les disciplines, ce rapport art-sport, il va se travailler donc entre les acteurs de terrain, les artistes, les clubs, ouais. Et peut-être aussi entre les services. Qu'est-ce que vous pouvez
de la ville.
De la ville.
Ouais, mais on a déjà commencé. Hein, Karine l'a dit, mais le décalage d'un an des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo a eu quelques conséquences, hein, parce qu'on devient l'Olympiade officielle parisienne à partir de la fin des Jeux paralympiques de Tokyo, mais on a déjà mis en place les Olympiades culturelles sur l'année 2020, donc il y a eu 6 projets, je crois, qui ont été financés sur 2020 dans ce cadre-là. Donc avec l'actualité lourde de l'épidémie, on n'en a pas forcément entendu parler à la hauteur de la qualité des projets, mais par contre, on a déjà fait plusieurs choses. D'abord, avec Paris 2024 notamment et des partenaires des Jeux, sur les équipements sportifs, on va rénover des équipements et y faire travailler des artistes. Il y a 6 terrains en 2021 qui vont être livrés avec des terrains de basket principalement qui vont être redécorés par des artistes. Il y en a un autre qui va être fait dans le 18e d'ailleurs pour l'Euro, donc c'est pas uniquement pour les Jeux non plus. On a développé les Paris Sport Vacances qui sont des dispositifs
et culture.
Et j'allais y venir.
Pardon.
Paris Sport Vacances et culture, mais à la base c'est des dispositifs Paris Sport Vacances qui sont un peu qui servent à accueillir des jeunes qui ne peuvent pas partir en vacances, pour la plupart, en tout cas, qui sont à Paris pour les vacances, et qui leur proposent des activités plutôt sportives à la base. Et on y a mêlé maintenant des demi-journées culturelles. Donc, en fait, ils font du sport le matin une activité culturelle l'après-midi, ou vice-versa. Et en fait, on s'est rendu compte, par exemple, c'est assez intéressant de le dire, qu'en fait, c'est mieux pour les deux pratiques. Parce qu'en fait, faire du sport sur toute une journée en termes énergétiques, c'est sûrement trop. Donc du coup, il y a une perte de qualité. Et là, ils n'en font que sur une demi-journée. Et en plus, ils font une activité culturelle l'après-midi. Ils apprennent plus de choses, ils voient des univers différents. Et en plus, ils s'éclatent plus, j'allais dire, à faire du sport parce que c'est sur un temps plus compressé. Donc ils en profitent très bien, ça marche très très bien. Bon, le Covid nous a amené à d'autres difficultés, ne pouvant plus faire du sport en intérieur, etc. Mais on s'adapte et en tout cas, on va décupler ce dispositif parce qu'on veut vraiment... voilà, c'est exactement le thème du jour, hein, l'art et sport. Ça, c'est pour moi un marqueur assez fort. Et on en travaille d'autres. Effectivement, l'Olympiade culturelle à l'entrée dans l'Olympiade parisienne, comme le disait Karine, va être marquée par des rendez-vous réguliers sur l'espace public, dans les différents lieux patrimoniaux parisiens qui vont réunir ces deux univers et montrer aussi comment, en fait, ils sont entremêlés et il existe déjà dans l'histoire, que ce soit du sport ou de la culture, beaucoup de liens qui ont été faits, qui ne sont pas toujours connus d'ailleurs. Et c'est vrai qu'il y a une forte demande du CIO aussi, hein, qui nous a confié l'attribution des Jeux pour 2024. Je pense qu'ils ont été aussi séduits par l'aspect culturel qui existe à Paris et l'histoire et qui fait aussi l'attrait de cette ville-là. Donc voilà, c'est un mélange qu'on essaye de scénariser autour des Olympiades culturelles et qui va être mis en place dès l'automne.
Alors, vous évoquiez la crise Covid. Les milieux de l'art et du sport ont été fortement impactés par cette crise sanitaire. Comment ont réagi les acteurs locaux avec lesquels vous travaillez et qu'est-ce que vous souhaitez retenir de leur réaction, Madame Roland ?
Alors, ils ont été violemment impactés. Pierre le disait tout à l'heure, en culture comme en sport, on a connu un arrêt total, puis une reprise graduée, mais quand même, c'est cette impression d'arrêt qui a prédominé. J'en retiens paradoxalement un effet en creux. On s'est rendu compte, globalement, généralement, et je crois que ça n'est pas une facilité que de le dire, de l'importance de la culture, du sport, parce qu'on en était privé. Et De fait, c'est plutôt une bonne nouvelle. J'espère vraiment que ce sentiment de nécessité va perdurer. Là, je parle du public et des publics. Et puis, ça a été exprimé à l'attention des professionnels aussi. Du côté des professionnels de la culture, j'ai surtout été marquée par la capacité de résistance, incroyable. Capacité d'innovation. Le numérique a été très utile, très, très bénéfique, notamment à l'occasion du premier confinement, avec des artistes qui se sont énormément mobilisés pour être présents auprès de leur public par des moyens numériques. Et puis, par la suite, j'ai souvent entendu, mais en fait, c'est pas ça quand même notre métier. Notre métier, c'est un lien vivant. Donc, sans renier du tout l'importance que peut avoir le numérique pour aller chercher de nouveaux publics, pour maintenir un lien parfois perlé, eh bien, ils ont souvent dit aussi, il est temps qu'on revienne à ce que le José Manuel Gonçalves, le directeur du 104, appelle la fabrication d'émotions directes. J'aime beaucoup ce terme. Et le 104 est un lieu d'ailleurs aussi.
Tout à fait, c'est vrai qu'on aurait pu citer.
Dans lequel on allie facilement culture et sport. Donc, dans un premier temps, sidération, bien sûr. Réaction très forte qui s'est déployée de différentes manières et aujourd'hui une envie formidable de renouer avec la rencontre, avec les publics, de renouer avec l'activité. En tout cas, une capacité de résistance assez extraordinaire. Et j'ai envie de dire, c'est aussi ce qui caractérise les artistes bien souvent. Là où on a quelques motifs d'inquiétude sur le plus long terme, c'est que dans le milieu culturel, il n'y a pas que les artistes. Il y a aussi beaucoup de professions connexes, qui sont les techniciens, bien sûr, mais ça va jusqu'à des médias, jusqu'à des agences d'événementiel. Et on sait que de ce point de vue-là, les répliques, comme après un séisme, peuvent être violentes et longues. Mais nous sommes évidemment mobilisés à leur côté et extrêmement vigilants.
Et vous, Monsieur Rabadan, qu'est-ce que vous voulez garder en tête alors, de cette crise sanitaire ?
Plusieurs choses. Je partage parfaitement le constat de Karine. D'abord, dire que ce qui a le plus manqué au final là-dedans, c'est la notion de partage. Et aujourd'hui, quand les sports professionnels, par exemple, ou certaines activités culturelles perdurent, on sent ça. On sent que ça a perdu un peu de son ADN, en fait. Même les sportifs qui ont la chance d'avoir pu continuer leur pratique, quand ils n'ont pas de partage avec le public, ce n'est pas la même chose. Évidemment, il y a un très gros manque du côté des spectateurs comme des acteurs, au final. Et cette pratique-là, elle a plus évolué. Nous, on a souvent appelé de nos voeux auprès du gouvernement, notamment d'avoir de la visibilité, malgré le côté imprévisible et la difficulté auquel chacun a dû faire face dans l'évolution de l'épidémie. On voulait pouvoir donner un peu de visibilité, comme ça a été le cas dernièrement, avec des reprises progressives ou en fonction des évolutions sanitaires. On a trouvé cette impatience, en fait, au fur et à mesure du temps, d'abord un peu d'effarement, de surprise, puis de l'adaptation, de l'innovation, où on a vu des gens, comme je le disais tout à l'heure, trouver d'autres modes de pratique, avoir recours à des outils numériques, garder un lien, c'était très important, et développer finalement une nouvelle manière de faire. Et je pense qu'il faudra aussi s'en inspirer pour la suite, pour aller chercher un public peut-être un peu plus grand, en réduisant parfois certaines notions de distance. Voilà. Il y a quand même des enseignements à tirer, mais on a clairement été dans une grande période de souffrance, qui continue d'ailleurs, parce qu'on n'en est pas encore complètement sorti.
Dans ces nouvelles manières de faire que vous évoquez, est-ce que vous en avez en tête
Par exemple, nous, on a eu recours avec des clubs et nous-mêmes en interne dans la ville à des cours en visio de sport, par exemple, qui ont trouvé un vrai public. On a nous-mêmes été surpris tant ça a eu du succès. Et après, on a dit au club, quand il y a eu de la reprise, puis de nouveau une rupture de pratique, essayez de garder le lien. Continuer à avoir vos licenciés, à entretenir autant que faire se peut, comme l'a fait parfois l'école quand il y avait des impossibilités de se rendre sur les lieux. de continuer à trouver, à garder cette connexion-là. C'était difficile, mais vraiment, on a été surpris aussi par la résilience et la capacité à vouloir conserver cette accroche-là. Après, Karine l'a dit, et pour le coup, c'est pareil, comme sur la notion de partage, ce sont des secteurs qui drainent beaucoup de métiers connexes, de l'événementiel, de l'organisation, du technique, de la sécurité, de l'accueil. Voilà, il y a beaucoup, c'est vraiment un écosystème. Et pour le coup, on l'entend parfois plus dans la culture et moins dans le sport, c'est quelque chose qui pèse dans l'économie française. Mais pour le coup, les deux, et ça a un vrai impact. Donc ce sont des gens qui sont en souffrance encore aujourd'hui. Et c'est la reprise qui, j'espère, progressive et ne sera plus interrompue, va permettre maintenant, avec on a un horizon, de retourner, j'espère, vers une sorte de normalité, si on pouvait dire ça. Mais j'espère en gardant les enseignements de ce qui a fonctionné comme évolution. Et je crois que ça, c'est important. Il faut aussi tirer les enseignements de ce qui s'est passé pour faire mieux à l'avenir. Donc le monde de demain, on disait ça au premier confinement. Donc sans être utopiste, je pense qu'il va falloir quand même garder ce qui a bien fonctionné. Et peut-être, je pense à certaines personnes que je rencontre qui ne faisaient pas de sport, par exemple, avant le confinement. Et comme elles ont eu du temps, parce qu'il y a eu le télétravail, il y a eu voilà, différentes notions, elles se sont moins déplacées, elles se sont mises à une pratique, ben, ces gens-là, il faut les conserver dans de l'activité physique régulière. Et j'espère que ça sera un des épisodes positifs, le peu d'épisodes positifs qu'on aura eu de cette crise sanitaire. Mais maintenant, voilà, il faut qu'on revienne, et j'espère qu'on parlera bientôt de cette crise au passé et qu'on revienne vers une pratique, parce que beaucoup de gens ont été et sont encore en souffrance. Et on a besoin, d'être que plus sur mon domaine, mais on a besoin de bouger plus, de faire plus d'activités physiques. C'est vraiment un enjeu essentiel pour nous. Les chiffres sont extrêmement criants. Ils l'étaient déjà avant la crise sanitaire, notamment chez les publics assez jeunes. Mmh. Et ils le sont d'autant plus maintenant. Mmh. Donc voilà, c'est un vrai enjeu aussi pour nous.
Et quelle place occupe l'espace public dans vos politiques liées à l'art et au sport? Est-ce qu'il y a des spécificités parisiennes à prendre en compte, Madame Roland?
Il y a une spécificité, c'est que nous avons à partager l'espace public. Il se passe beaucoup de choses dans une ville comme Paris. On y vit, on y passe, on la visite, on y travaille, etc. Et ça a été évoqué par Pierre tout à l'heure, l'espace public est très densément occupé, déjà. Néanmoins, il nous semble que les manifestations visuelles, qu'elles soient vivantes ou non, sont importantes pour marquer une époque, pour célébrer l'histoire, pour bien des raisons. Ce qui fait que l'espace public parisien est peuplé d'œuvres plus ou moins anciennes, dont nous nous attachons à ce qu'elles continuent de se renouveler. Il y a déjà ça. Et puis, il y a vraiment le souhait, je l'évoquais en ouverture de notre conversation, de rendre les pratiques culturelles les plus proches possibles de la vie des Parisiennes et des Parisiens. Je considère que les pratiques culturelles sont un principe de liberté. Donc, si on veut traverser Paris pour aller dans un musée ou un lieu de spectacle vivant, bien sûr, il faut pouvoir le faire et il faut que ces lieux soient les plus ouverts possibles. Et, je ne dis pas mais, et il faut aussi que dans cette notion de ville de la proximité que nous portons avec Anne Hidalgo, eh bien, on puisse rencontrer, apprécier ou pas, mais c'est tout le jeu de la rencontre, de la confrontation, qui parfois fonctionne, parfois pas, mais en tout cas qui permet la découverte, rencontrer des manifestations artistiques. Et pour ça, l'espace public, bien sûr, est tout à fait indiqué. Alors, quand on parle d'espace public, je préfère parler d'espace de plein air, parce que il faut respecter, bien sûr, ce qu'est la création. Et on ne peut pas forcément installer une scène aussi réduite soit-elle, et des gradins ou des chaises aussi peu nombreux soient-ils, en bord d'une rue très circulante. Donc nous cherchons tous les endroits qui peuvent être des lieux assez singuliers, des placettes, des croisements, et Paris en regorge, qui pourrait accueillir des manifestations artistiques. Nous l'avons déjà fait l'été dernier, nous le referons cet été. Il y a eu un appel à projet autour de ça, et dans l'appel à projet, nous appelions de nos voeux que des manifestations faisant appel au sport et à la culture soient proposées. Donc, nous sommes en train d'examiner, la direction des affaires culturelles est en train d'examiner le retour de cet appel à projet. En tout cas, c'est un des aspects positifs du Covid aussi. Eh bien, tout ça se déroulera en extérieur. On garde bien en tête que la création a un prix, la création est précieuse. Donc, ça pose des questions sur la gratuité. Mais nous le voyons plutôt comme une incitation à ensuite aller dans d'autres lieux. Donc en tout cas, oui, le plein air doit redevenir un terrain de jeu, je dirais.
Alors une ville dense, hein, on disait peu d'équipements sur le plan sportif et une recherche de développement de la pratique en espace public, vous l'évoquiez dans la présentation de vos politiques. Quelles sont les spécificités parisiennes
je vais reprendre ce que j'ai dit. On n'a pas peu d'équipements, on en a presque 500 équipements sportifs, mais par rapport au nombre d'habitants, effectivement, ça fait assez peu. Par ailleurs, c'est une ville qui est extrêmement prisée en termes d'événementiel, hein, parce qu'en temps normal, hors Covid, on accueille quasiment 450 manifestations ou événements sportifs à l'année. Donc ça veut dire plus d'une par jour. Donc vous imaginez ce que ça peut être sur certaines fins de semaine ou certains week-ends. Et puis évidemment, la plupart sont en recherche du cadre iconique de Paris. Hein. D'ailleurs, pas simplement le centre historique, hein, mais il y a des parcours tout au long de la ville qui sont à valoriser. Et c'est ce qu'on essaye de faire et qu'on continue à faire. Ce que je voulais dire, et je reviens sur ce projet-là, l'espace public, c'est quoi? C'est ce qui appartient à tout le monde. C'est là où tout le monde se rencontre, où tout le monde vit. Et finalement, c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure. C'est ce qui mêle l'art et le sport, la culture et l'activité physique. C'est un endroit, ce sont des endroits où on connaît mieux l'autre, on découvre le mieux l'autre, on apprend à vivre avec l'autre. Et finalement, je crois que là-dessus, on se rejoint beaucoup. Et ça, si on arrive à le faire dans un espace que l'on partage tous, et autant que faire se peut, si on le partage bien, c'est mieux. Donc il y a beaucoup d'enjeux autour de ça. Moi, ce que j'espère faire, c'est, voilà, Karine l'a dit, on a eu d'ailleurs un appel à projet par le passé qui s'appelait Paris Terrain de Jeu. Donc c'est significatif. Et ce que je souhaite faire, c'est aussi arriver à identifier des parcours sportifs au sein de la ville. Je le disais, en réaménageant des rues et en identifiant des parcours qui permettent d'aller à un point B en sachant quelle distance on fait pour inciter à la pratique et donner un cadre qui donne envie de faire du sport. Ça, c'est encore pas toujours le cas, donc on a vraiment du travail à faire là-dessus. Et puis il y a un travail de proximité, Karine l'évoquait, elle est aussi adjointe à la ville du quart d'heure, donc c'est un fort enjeu. On sait que le club dans un quartier est une entité forte et puissante qui réunit, et on souhaite développer des connexions entre les clubs, mais aussi les autres associations du quartier, les commerçants. Voilà, il existe des synergies. Parfois, ce sont des structures qui cohabitent dans un même quartier. On aimerait les faire travailler mieux ensemble. Donc voilà, on a des cadres, les sports social clubs, que l'on aimerait valoriser dans le cadre de la ville du quart d'heure. Et finalement, ce sont les réunions de toutes ces forces-là, les forces sportives, les forces culturelles, les forces commerçantes, les forces associatives, au final, qui sont la richesse et qui sont constituées par les habitants eux-mêmes. Donc ça, c'est important. Et je veux terminer en disant que c'est quand même le concept que nous portons depuis le début avec la maire de Paris, avec Anne Hidalgo, qu'elle porte en premier lieu, évidemment, depuis que Paris a été candidate pour organiser les Jeux en 2024. Vous savez qu'on a perdu plusieurs fois des candidatures. Je pense qu'on a appris et la maire a trouvé un angle très intéressant pour valoriser ça auprès du CIO. Et cette proximité, c'est ce que l'on a valorisé vraiment dans notre programme de Paris 2024. On veut, et avec la Seine-Saint-Denis en premier lieu, des territoires qui soient décloisonnés, qui se rapprochent, mais qui créent de la proximité. on a, et aussi pour des questions liées à des moindres déplacements, baisser l'empreinte carbone, voilà, on a fait la plupart de l'héritage structurel sera dans le nord parisien et surtout en Seine-Saint-Denis avec le village olympique, etc. Et on a voulu que s'appuyer sur des infrastructures qui existaient déjà pour la plupart et qu'elles soient à proximité le plus possible de ce village olympique. Mmh. Et donc voilà, c'est vraiment la carte que l'on a jouée depuis le début, c'est la proximité et le partage. Et vraiment, c'est ce que l'on souhaite faire avec l'héritage. On veut faire des jeux qui soient utiles aux populations. Et donc, c'est tout ça qu'on doit pouvoir raconter dans le cadre de l'Olympiade culturelle. Donc, on a une programmation ambitieuse, comme vous le voyez, mais extrêmement motivante. Et puis, ça va être... voilà, c'est quelque chose qui est porteur, qui doit être positif après une période difficile. Et voilà, c'est un... Maintenant, j'espère qu'on voit le bout du tunnel. Et au bout de ce tunnel-là, il y a l'accueil du plus grand événement qu'il est possible d'organiser dans le monde, c'est-à-dire les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. Et ça doit être porteur à la fois sur l'emploi, mais aussi sur la culture, sur la pratique sportive. Et voilà, et on est très enthousiaste d'accueillir ces Jeux.
Et Madame Roland, du coup, comment l'espace public peut jouer un rôle aussi dans l'inclusion, dans l'accès, en fait, à l'art, au sport? Comment l'espace public peut jouer comme levier sur ces questions d'inclusion?
L'espace public, Pierre le disait très bien, c'est un commun. C'est l'endroit où on va se rencontrer, y compris lorsqu'on ne l'a pas prévu. Donc, à partir de là, on peut tout inventer. Si, évidemment, on y adapte, si on y met les formes, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Mais que l'on soit jeune, vieux, et toute autre forme de spécificité joue de la même manière, on partage tous cet espace-là. Soit on en a une vision complètement fonctionnelle, on a pas mal parlé de déplacement, donc l'espace public sert effectivement à ça, d'aller d'un endroit à un autre, serviciel. Il y a un certain nombre de fonctions dans la vie quotidienne qui sont absolument incontournables. Et ça, de toute façon, nous y tenons beaucoup et nous tenons à Paris à faciliter tout ce qui relève de l'indispensable. Une autre manière d'envisager l'espace public, c'est de considérer que, justement, ça peut être un lieu d'expérience inédite de rencontres entre sport et culture, de rencontres entre culture et habitants, entre sport, culture et habitants. Et tout ça est presque démultipliable à l'infini. Il est vrai que c'est quelque chose qui est très porté dans la vision d'Anne Hidalgo, très, très fort dans la vision qu'Anne Hidalgo a de sa ville, que de faire en sorte que ce cadre magnifique, et pas magnifique uniquement le long de la Seine, Paris c'est comme un palimpseste, on y voit absolument toutes les époques, des traces de l'histoire absolument partout, et de l'histoire qu'on écrit pour demain, on n'arrête pas de parler de 2024, et pour les générations futures aussi, ce cadre-là, il faut pouvoir l'utiliser dans le sens noble du terme, le valoriser et l'utiliser pour en faire plus que uniquement un lieu de déplacement ou d'activité strictement incontournable. Et ça génère de la rencontre, ça génère de l'inclusion.
Et de la rencontre, il y en a aussi eu lieu pendant la crise Covid sur les réseaux sociaux. Monsieur Rabadan, vous évoquiez tout à l'heure les développements des pratiques en visio. Est-ce que sur le plan artistique ou sur le plan culturel, cette nouvelle place des réseaux sociaux, il y a quelque chose à garder de ça pour vous, Madame Roland ?
En matière culturelle, sur les réseaux sociaux ?
Oui.
Oui, parce que les nombres d'établissements et d'ensembles ont très bien su jouer de ça, au sens propre du terme et au sens positif du terme, et ont su commencer à élargir leur communauté. Ils avaient leur public, ils ont pu parce qu'ils avaient plus de temps que d'habitude pour ça. Malheureusement, je dirais, en première intention, mais ils ont utilisé ce temps-là pour aller à la conquête public qu'ils n'auraient pas forcément vu dans leur salle. Et on a assisté à des événements en ligne totalement inattendus. Ça a beaucoup fonctionné pour le spectacle vivant. Je pense au théâtre. Je pense aussi à la musique classique qui s'est soudain démultipliée sur les fils de nos téléphones et autres ordinateurs. C'est encore une fois, c'est une chose, pardon, sur laquelle il faut pouvoir s'appuyer, toujours dans l'idée de créer un mouvement vertueux. Une fois qu'on en a pris le goût sur les réseaux sociaux, eh bien, l'idée, c'est de venir après écouter in real life, on dit, je crois.
Merci beaucoup du temps que vous nous avez accordé. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci pour votre
accueil
chaleureux.
Merci beaucoup.